tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'hommes. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutu.
Oh, arrêtez! Il suffit de lui mettre une balle dans la tête et c'est lui qui est foutu. Pas vrai?
Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque.
You're gonna need a bigger podcast.
Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour nos sauts mortels dans des océans cinématographiques peuplés de requins affamés. Nouvel épisode de notre podcast, et il faut bien avouer qu'en ce moment, l'actualité du film de requin est particulièrement chargée. Je ne sais pas si c'est la sortie de The Meg 2 qui donne des idées un peu à tout le monde, mais on a vu apparaître la première bande-annonce de The Black Demon, dont je vous avais déjà un petit peu parlé il y a ça de numéro, des requins agressifs autour d'une plateforme pétrolière. On a vu aussi apparaître la bande-annonce de Ninja vs Shark, une production pseudo-historique japonaise à l'affiche assez tapageuse, mais aussi la résurgence d'un vieux projet de Tommy Wiseau de The Room, Big Shark, avec une nouvelle bande-annonce. Et dans la foulée de Cocaine Bear, le succès surprise du film d'Elizabeth Banks, qui, soyons honnêtes, est pas terrible, avec son ours de synthèse en caoutchouc qu'ils auraient mieux fait de faire en dessin animé, sa réalisation aux fraises, ses acteurs qui surjouent très mal, son humour bas de plafond. C'est en gros une comédie de chez Roger Corman, mais en pire, et on se demande vraiment comment c'est arrivé au cinéma. Bon, cela étant, il y a quand même une ou deux scènes qui m'ont fait rire, un peu de gore craspec, donc, allez, je suis assez bien marré, et si j'avais dû l'intégrer à la liste Shark Parade, je pense qu'il aurait été aux alentours de 8-9 sur 10. Mais je m'égare, nous ne sommes pas là pour parler nounours, mais bien requins. Et donc, ce Cocaine Bear a engendré un Cocaine Shark, signé Marc Polonia, qui s'est empressé de poster les premières photos de ce film. Ça a l'air de pas faire envie du tout. Et encore, je ne vous parle même pas de Puppet Shark, un film de requins avec des marionnettes signé Brett Kelly, et des premières images qui commencent à sortir. Bref, les films de requins, ils arrivent plus vite que j'arrive à les chroniquer, donc on n'est pas prêt de finir Shark Parade, moi je vous le dis. Enfin bref, nous rappelons rapidement le principe de l'émission. Nous avons tiré au sort deux films de requins que nous allons analyser avec une très grande rigueur pédagogique pour en déterminer les capacités squalesques et cinématographiques, c'est-à-dire squalographiques, l'originalité, l'histoire, les personnages, la réalisation, l'ambiance, la qualité des requins, à chaque fois attribués de 0 à 3 points selon qu'ils soient non acquis, insuffisamment acquis, en cours d'acquisition ou acquis, ce qui nous fait un total de 18. Nous rajoutons 2 points d'appréciation personnelle, et nous avons une note sur 20 qui nous permet de les reclasser dans une des 5 catégories suivantes. Au-dessus de 16, on a un incontournable, ils sont très peu nombreux. Au-dessus de 12, on a un bon film. Au-dessus de 8, on a un film routinier, mais quand même déjà bien regardable si c'est au-dessus de 10. Entre 4 et 8, on est dans le film nul, et en dessous de 4, on est dans le à fuir. Ne vous infligez pas ça. Alors qu'avons-nous au programme cette fois-ci? Eh bien, Shark Babes de Jim Wynorski, un film de 2015, un film érotique, avec des requins. Et puis une production de série B un peu plus cossue, sortie en 2021, Great White de Martin Wilson, un film australien où des naufragés doivent faire face à deux requins particulièrement affamés. Alors, prêt à jeter à l'eau ?
Down at the Shark Anomaly Center, a group of sexy marine biologists probe the secrets of the greatest predator known to man. They soon discover the ferocious sea creature emits an erotic sound that no woman can resist. But will their newly unearthed shark waves eventually take them to new heights or simply turn them all into irresistible shark babes bent on overthrowing mankind?
Who do you work for?
Fingerworth Industries. Part-time, of course.
Come explore the extreme depths of the unknown with the hottest ladies this side of the equator. As busty shark experts break down the mating rituals of the ancient species while creating a few new rituals of their own. The girls take their research to new levels of flesh-filled excitement. So batten down your hatches and prepare to dive. You are about to discover what really happens when shark fever is cast upon this crew of unsuspecting researchers. Shark Babes is an all-out majestic adventure under the sea that would make even Captain Nemo blush. Shark Babes, watch out! They bite.
Si votre niveau d'anglais est suffisant pour avoir parfaitement compris les paroles de cette bande-annonce, vous avez dû vous apercevoir que Shark Babes est moins un film de requin qu'un porno soft. Très soft. Tourné à l'économie par le vétéran Jim Wynorski. Et là donc, ce Shark Babes permet à d'accord océanographes peu vêtus de se papouiller sur une intrigue squalesque que nous qualifierons poliment de plus ténue que tenue. Voire carrément en petite tenue. En effet, le SAC, Shark Anomaly Center, centre de recherche sur la faune marine, s'inquiète du nom d'étrange émise par les requins qui pourrait menacer l'humanité. Oui, alors, en fait, de menace sur l'humanité, c'est plutôt de provoquer des ondes érotiques qui rendent les gens pleins de désirs lubriques. Et quand je dis s'inquiéter, c'est surtout qu'elles passent leur temps à prendre des douches et à baiser sur des canapés. C'est pas comme ça que la recherche scientifique va encore progresser. Même si j'en connais beaucoup au CNRS qui rêveraient d'avoir des centres de recherche dans des villas californiennes avec piscine.
Has anyone here ever heard of horny shark fever?
But that's just a silly story for undergrads and drunken sailors.
Not necessarily. It was 4 years ago off the coast of Japan when me and a female partner got caught in a great typhoon when we stumbled upon a very mean-looking shark. Beached, gasping for air, I looked deep into those cold eyes, those black, lifeless eyes, like a doll's eyes. When suddenly, out of its whole body, a strange sound tickled my whole body. It threw us to the ground, when next thing I knew, I was overcome with a very strong sexual desire. It was lust. Oh yes, Jessica, pure oceanic lust. If this shockwave frenzy keeps upsetting the natural fragile order of our ocean, it could destroy the very balance and nature of sharks as we know it today.
I think I catch your drift, Doctor.
Ce qui fait qu'on se retrouve avec un film dont les deux tiers des scènes sont des ébats simulés entre protagonistes, le reste étant des dialogues de raccord pour justifier le tout, vous entendez les gros guillemets que je fais avec les doigts, et vous me direz, bah, c'est quand même pratique que la menace générée par les requins soit justement une onde qui transforme tout le monde en infomane. Or c'est pas le premier film érotique avec des requins que nous traitons, hein. On avait eu dans l'épisode 18 The St. Joe's, Triple X, Chessler, qui était carrément un porno ce coup-ci. On a Dick Shark aussi qui nous attend quelque part et que ben, j'ai pas tellement envie de voir tellement il a mauvaise réputation. Et puis ben, on a celui-là qui est voilà, un soft. On a que des scènes simulées, lesbiennes et hétéro, par des acteurs et des actrices du genre, hein. Pas vu de version hard quelque part, donc. Il semble que ce soit juste un soft, hein. Et j'ai pas envie d'être exagérément sévère avec ce qui ne se cache pas d'être une petite production fauchée, rigolarde et érotique, fait avec une bonne humeur évidente, de la part d'une équipe et d'un casting bien conscients qu'ils sont pas là pour livrer le film du siècle. Même si, dans les 20 minutes de dialogue entre les différentes scènes de nu, eh ben, le film réussit à développer une sous-intrigue avec des espions industriels qui viennent essayer de voler les recherches du SAC pour le compte d'une boîte pharmaceutique qui veut créer l'aphrodisiaque ultime à partir de la shark fever, c'est-à-dire de cette onde orgasmique générée par les requins qui risque de transformer le monde en une sorte de partouze frénétique. Pourquoi ils veulent l'empêcher, en fait ? Toujours est-il que, voilà, il y a une histoire, il y a des intrigues palpitantes, il y a un tournage qui a pas duré plus de 2 jours, dans un décor unique, c'est le bout du monde, hein, c'est un labo avec un ordinateur portable, des posters de requins, et un pseudo grand écran qui est en fait un cadre en papier d'alu dans lequel est incrustée une image en boucle de requins nageant dans un aqualand. Toujours la même boucle d'ailleurs, hein, ça... Et c'est pas sur la partie requins qu'ils vont gagner des points, parce qu'à part donc ces images de requins dans un aquarium, et un plan furtif de requin en image de synthèse accompagné par une image de satellite en image de synthèse et un bathyscaphe en image de synthèse, le tout probablement récupéré dans une banque de données. Et ben voilà, c'est plus sur la partie acting ou scénar qu'on va se concentrer.
Got it. Yes, I'm in. Can you hear me? Come on, I won't bite. Thank you. So, what happened to you?
It's my inner voice. I can't feel it.
Feel it? Your inner voice? What do you mean?
It's gone.
Oh, you mean your shark wave. It's not working properly. Oh my God, this can't be.
I feel weak.
Don't worry. I'll make this right.
Justine! Justine! Damn it.
Justine, hurry. My signal is fading.
I'm sorry. I know. But I'm going to reverse the signal. I'm going to put it back the way it should be.
Thanks, Justine. Hurry up.
One more second, Shark. One more second. I got to calibrate. Okay? Code 7. And I'm in.
Open the door, Justine, or I'll knock it down.
Code Sharpie. Yes!
Get away from that computer now! What's happening?
Ouais. Bon, comme je vous l'ai dit, le casting est intégralement composé d'acteurs porno. Et c'est pas forcément les meilleurs acteurs du monde, même si on sent qu'ils s'amusent bien et que c'est parfois assez communicatif. Mais bon, on est d'abord dans le film érotique et pas vraiment dans le film de requin. Alors, je vous avais déjà parlé lors de l'épisode 33 de Charpensas Woman's Prison Massacre et de Jim Wynorski, réalisateur multicarte qui fait depuis les années 83 films minimum par an, dans tous les genres, qui rapportent des sous, que ce soit de la science-fiction, que ce soit du polar, que ce soit du film de monstre, du film pour enfants, et qui finance justement ses productions plus cossues par des petits films érotiques, vite tournés, généralement sous pseudo. Ici c'est Harold Blueberry, mais ça aurait pu être Rip Masters ou Sam Pepperman. Et ces films érotiques, ils n'ont pas d'autre intention que de nous montrer des filles à poil et des titres plutôt rigolos, comme The Devil Wears Nada, Sexy Wives in Session, Legend of the Naked Ghost. Bref, du tout venant, tourné à la chaîne avec quelques bellâtres, quelques actrices poitrinées qui jouent à picoti-picota sur un vague prétexte scénaristique pour faire la culbute, c'est le cas de le dire, sur le marché de la VOD. Alors, on retrouve souvent certains de ces acteurs, d'un film à l'autre, comme Cindy Lucas, Robbie Bresnahan, Frankie Cullen, qui semblent indiquer que notre Jim Wynorski, c'est un réal avec lequel il est plutôt facile de travailler. D'ailleurs, il s'en cache pas en interview, le gars il a 40 ans de carrière, et il dit qu'il entend dans le métier, for the money and the chicks, et que les nichons, c'est l'effet spécial le moins cher du business. Et Shark Babe rentre parfaitement dans cette catégorie, avec ses requins dont les ondes peuvent rendre nymphomanes tous les scientifiques qui l'étudient. Alors habituellement, quand j'ai pas grand-chose à dire sur un film, je vais voir l'équipe technique. Mais là, la moitié des noms... Bon, soyons clairs, en fait, c'est Jimmy lui-même qui assure la plupart des postes, avec l'aide de 3 ou 4 de ses techos réguliers qui bossent pour lui sur tous ses films. Parce qu'on me fera pas croire à l'existence d'un certain Ennio Zerotico à la musique, qui nous pond des chansons easy listening au synthé qui accompagnent les mouvements de bassin des personnages, la direction photo de soap opéra d'un certain Tessio de Barzini, merci le parrain, là encore, j'ai du mal à croire à l'existence de ce type, le tout produit pour Old Mill Entertainment de Dave Zanni, un gars qui a commencé dans l'animation de jeux vidéo, notamment Max Payne 3, Elle est Noire, et qui après avoir fait quelques petits films érotiques pour remplir la caisse, fait à l'heure actuelle pas mal de petits films d'archéologie ésotérique à base de pyramides, de fantômes, d'extraterrestres, le tout narré en voix off par des pseudo-archéologues complotistes. Tout ça pour vous dire que Sharkbabe n'a globalement que peu d'intérêt, et soyez prévenus, vous allez vous taper 40 minutes de porno soft sur les 1h17 du métrage, donc voilà, si vous y allez, vous savez pourquoi. Oui, venez pas me dire que moi j'ai maté le film, moi c'est pour le podcast, c'est du boulot, c'est professionnel. Vous, si vous matez ce film, c'est que vous êtes des pervers, ne le niez pas, Bon, il se trouve facilement sur internet si vous allez chercher dans des sites peu recommandables, mais c'est pas moi qui vous ai dit d'y aller, Vous ne me mêlez pas à ça. C'est qui le plus pervers? Celui qui fait le podcast ou celui qui l'écoute? Pensez à ça.
What's happening? It's our shark! She's here!
That was quick! Can you pinpoint a location?
Too deep, sir. It appears she's moving toward the cage.
Cue up our maiden signal.
Follow it!
What she said, do it!
I'm confused.
That is our shark. Track the signal.
She's strong. She's moving into range. You want us to...
We're losing her.
Don't let her get away.
Okay, I can triangulate. Okay, got it. Triangulation complete. Next.
I put a cage in place. Now capture that shark.
What? Nobody told me we were gonna trap her. That's unethical.
Hold in position. Mainframe password.
What's the mainframe password?
You were at the debriefing. Mum's the word. Need to know.
Oh, I got it. I think.
Bait her.
She dropped.
Let her think she's safe.
Okay, did no one hear me? We're here to study, not trap her. This is totally unethical.
She's on course. She's right on course.
Did nobody hear me? This just isn't right. Trapping the shark will only harm her. Why doesn't anyone listen?
Alors, les qualités squalographiques de Shark Babe. Originalité, c'est insuffisamment acquis. Alors, c'est là que le film est plus réussi, c'est qu'il arrive à trouver un prétexte pour faire un film de requin érotique, avec donc cette histoire d'onde orgasmique. C'est complètement stupide, mais finalement, on a envie de savoir ce qui se passe. Donc, on suit le film. Alors, par contre, l'histoire, donc 40 minutes de copulation sur 1h16, même si un semblant d'histoire, une vague résolution, c'est quand même un acquis, ça c'est du prétexte et du déroulé trop facile. Alors les personnages insuffisamment acquis, tout le monde joue super mal, mais avec enthousiasme, et donc ça c'est cool. Et en fait, bah, il se dégage de cette bande de bras cassés, petite sympathie quand même. Alors l'ambiance est insuffisamment acquis, alors c'est quand même rigolo. Et franchement, je me suis moins ennuyé que devant pas mal de The Asylum récents. Et je suis un peu le seul à passer les scènes de sexe en accéléré pour mater les dialogues sur les requins. Voilà, on a les kings qu'on peut, mais... Il y a des fois, ma propre perversité m'inquiète un peu. La réalisation, elle est insuffisamment acquise. La caméra est posée, il n'y a pas d'effort. C'est pas parce que Jim Murphy n'est pas capable, hein, c'est que, voilà, ça doit être tourné vite fait à l'économie, mais c'est propre. C'est plutôt honnêtement filmé, l'image est une image assez léchée, comme les actrices. Enfin, voilà, les requins n'en sont en acquis, eux, par contre. Il n'y en a pas, c'est une image dans un aquarium, avec un requin qui parle. Oui, parce qu'il y a un requin qui parle, et ça, c'est... Donc ouais, forcément, quoi. S'attendre non plus à des prouesses de ce côté-là, hein. Vous pouvez pas aller mettre les sous partout. Des effets spéciaux, ça coûte cher, et 99% des gens qui voient ce film, c'est pas vraiment pour les requins qui voient ce film. Donc ça nous donne un total de 4. Allez, je rajoute un demi-point parce que je m'attendais vraiment à voir n'importe quoi. Et finalement, il y a une, comme j'ai dit, il y a une petite sympathie, c'est nul. Mais c'est pas non plus un film qui est complètement déshonorant dans son genre. Par contre, je vois pas vraiment à qui ça s'adresse. Hein, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, les gens qui viennent voir du film érotique, ils viennent pour les nichons. Et puis les gens qui viennent pour voir des films de requins, ils se font un peu plus voler. Mais bon, au moins, il a des trucs pour l'occuper. Alors, quittons nos requins érotiques pour aborder un film australien de 2021 qui lui, a davantage les atours d'un film de cinéma.
Tout va bien à l'arrière ? Ouvrez les yeux, vous pourriez voir une baleine.
Ou un requin.
Un jour où je plongeais seul, il y en a un qui m'a attrapé par derrière. Heureusement, plus pour un suçon qu'une morsure. Bienvenue au récif de l'enfer.
On l'a fait.
Hey ! Attaque de requin.
Nick !
Le bateau devrait pas être loin.
Nick !
Vous ne savez pas où chercher et les chances de trouver quelque chose sont proches du néant.
On doit essayer. Elle est peut-être toujours vivante.
On coule ! Le courant nous porte. Demain, on sera à 75 km d'ici.
Le SES est parti ?
Pas sûr.
Et les gardes-côtes ?
Le courant va vers l'est. On l'utilise pour rejoindre la côte.
Tu te fous de nous ?
T'as une meilleure idée ?
Tu crois qu'il est parti ?
Il est toujours là. Et il est tout prêt. Tout le monde sort de l'eau !
C'est dingue, j'avais perdu l'habitude de voir un vrai film. Enfin, je veux dire, un film de requin fait un peu sérieusement, avec un budget qui doit dépasser le million de dollars, l'ambition de nous faire un peu peur, ou au minimum de nous intéresser à ce qui se passe. Or, ça veut pas dire non plus que ce Great White est un chef-d'œuvre total. Hein. Loin s'en faut, mais dans le marasme dans lequel je barbote depuis quelques films, une production de série B qui essaye de nous la jouer, sinon sérieusement, en tout cas, en essayant au minimum de ressembler à un vrai film, eh ben c'est déjà ça. Sauf que quand je l'ai tiré la dernière fois, je me suis souvenu de ce film, que j'avais complètement oublié, alors que je l'ai vu il y a 2 ans, et qu'il s'était désintégré de ma mémoire, parce qu'en fait, c'est une histoire repompée sur The Reef et Open Waters 3, avec des requins en CGI flou qui grognent et qui traquent des naufragés sur un radeau de sauvetage, et des comme ça, j'en avais déjà vu avant, j'en ai revu après, et je me suis aperçu que finalement, c'était une formule tout à fait bateau qui avait été réemployée ici, avec pour résultat un film aussi générique qu'oubliable. Bon, de quoi ça parle ? Barbie et Ken sont tour opérateur et pilote d'hydravion dans les îles du Pacifique. Oui, bon, en fait, ils s'appellent Kaz et Charlie, mais ils sont interprétés par des comédiens dont la bogositude est over 9000 et dont la profondeur de caractérisation est en plastique. Ils s'envolent donc dans leur hydravion avec leur assistant cuistot pour accompagner un couple de Japonais qui veut aller au récif du diable. Oui, bon, le nom est un petit peu chargé à cause d'histoire locale, mais c'est quand même un joli petit coin de paradis. Et donc, alors qu'ils sont en train de s'installer, ils découvrent les restes d'une victime d'attaque de requin. Ce qui choque particulièrement Charlie, lui-même ancien biologiste marin, qui a été blessé par un squale.
C'est sûr. Charlie a une formation de biologiste marin. Il connaît le sujet.
Je le pensais aussi. Jusqu'à ce qu'un requin me trouve à son goût.
Nous y voilà.
Ah bon, c'est arrivé comment?
Chérie, non, il ne doit pas vouloir en parler, tu sais. Ça remue de mauvais souvenirs.
Non, pas de soucis, ça ne me dérange pas. Je faisais des recherches sur les requins noirs des récifs et leurs techniques de chasse. Ils sont diablement bons. Un jour, j'étais sorti seul, première erreur. L'un d'eux m'attrape par derrière, me recrache. Rien vu arriver. Deuxième erreur, ne pas faire attention. Heureusement, c'était plus un suçon qu'une vraie morsure.
Un suçon qui l'a conduit à l'hôpital pour 2 semaines.
Oh, tu vas aimer celle-là, Judy. Il y a quelques années, un groupe de touristes était parti observer des requins. Quand un requin de 3 mètres, un grand blanc, saute sur le pont du bateau. Ah ! Ils ont eu la trouille de leur vie.
Béni.
Alors qu'il tente de voir s'il reste des survivants du petit voilier des vacanciers, lui-même en train de couler au large, eh bien leur hydravion est attaqué par 2 grands blancs, qui entraînent l'appareil par le fond, les laissant dériver sur un canot de sauvetage, sans moyen de joindre les secours. Évidemment, nos 2 requins blancs vont venir rôder assez rapidement autour de l'embarcation. On le voit, rien de révolutionnaire. Dans les pays anglo-saxons, ils essayaient de le vendre plus ou moins comme le 3e volet de la série 37 Meters Down, en jouant sur un producteur commun. En France, le DVD Whiteside cite plutôt ses vrais producteurs, qui sont ceux de The Reef et Blackwater. Et en fait, ils devraient pas trop s'en vanter, parce que c'est là qu'on voit le problème. Prenez une grande inspiration, dit Lacroche, et ça, pour s'inspirer, ça s'inspire. Voire carrément, ça recycle, hein. On est dans le déjà-vu, et d'autant plus, en fait, que ce film a vraiment fait penser à un autre film, Blackwater Abyss, qui était, cette fois-ci, dans une grotte avec des crocodiles. Mais vous remplacez la grotte et les crocodiles par un requin d'océan, vous avez quasiment la même chose. Et en plus, j'ai vu donc The Reef 2 Stoke, qui est sorti l'année dernière, dans Dithraoki, et ben c'est encore le même scénar. Avec des kayakistes en mer qui sont poursuivis par des requins et les péripéties qui sont quasiment les mêmes. Alors, je sais bien que l'originalité absolue n'existe pas, mais là, les Australiens, ils ont tendance un petit peu à tirer sur une corde un peu trop rentable. Et ils sont pas les seuls, hein, parce que c'est aussi le scénar de The Requin avec Alicia Silverstone sorti l'année dernière, de Shark Bay qu'on avait traité dans le numéro 51, et c'est aussi globalement la même chose que au moins 3 autres films de The Asylum, inédits chez nous et sortis ces 3 dernières années, Shark Season, Swim et Shark Waters, avec à chaque fois des naufragés coincés sur un truc qui dérive et des requins autour. Et là, ce qui va faire la différence, comme tout bon cinéphile le sait depuis les cahiers du cinéma, c'est la mise en scène. Alors notre réal, Martin Wilson, c'est un publicitaire à la base, bon, c'est le 2e long métrage, et ça se sent. Parce que la plus-value, c'est vraiment de la belle image touristique, avec des paysages, des vues aériennes. Après, on peut pas lui enlever l'efficacité de son final, où il profite bien de quelques ruines à demi échouées, de fragments d'épave. Mais pour le reste, bon Dieu que c'est mou. C'est sans intérêt avec des personnages qui ont des arcs à peine développés dans la première partie, qui globalement ne mènent jamais à rien, comme l'espèce de début de flirt entre le cuistot et la japonaise, devant susciter la jalousie. Il méritait ta claque, de toute façon ils sont tous bouffés, donc... Allez hop, tu le sens le remplissage?
Tu connais les requins, non?
Je pense, ouais.
Et comme tu l'as dit, je suis analyste financier. Tu sais ce que c'est? Ce que je fais? J'étudie des situations. J'évalue les probabilités et puis, d'après les faits, je prédis les résultats. Tu dis que tu es un bon biologiste marin. Moi, je suis très bon. Vraiment très bon analyste. Tu veux une évaluation objective de notre situation? Alors voilà. Si le requin est toujours par ici, j'évaluerai nos chances de survie à moins de 5%. Et encore, putain, je suis optimiste. Tu crois qu'il est parti?
J'en ai aucune idée.
Mon cul! Tu disais qu'il devrait pas y en avoir, mais il est là et il veut nous bouffer! Il est pas parti. Il le sait. Et elle aussi.
Qu'est-ce que t'attends de moi?
Je veux que tu me dises la vérité!
Ok. Il est toujours là.
Tout est à peu près au même niveau, la musique de Tim Count, c'est des nappes de synthé, c'est des musiques qu'on pourrait trouver dans n'importe quelle série télé. Elles sont pas mauvaises, elles sont juste utilitaires, mais la bande originale n'a jamais été éditée, et tout ça est à l'image d'un film qui, au bout de 2 ans, est complètement oublié, complètement sorti des mémoires. Un produit de consommation courante, avec un peu plus de budget certes, mais pas beaucoup plus d'ambition qu'un Asie Asylum standard. Et le problème, c'est que ça représente pas mal des films de requins actuels qui sortent à la chaîne et qui sont vraiment oubliables, manquant de personnalité, se copiant les uns sur les autres. C'est pas le pire film du lot, mais c'est pas le plus mémorable non plus. Et c'est bien le problème.
Charlie ?
Tout va bien, on reste calme. C'est que ça approche assez, je peux avoir une petite chance. Toi.
Où est-il ?
Je sais pas.
Où est-il ?
Je le vois pas. Putain de merde !
Charlie, quoi ? Quoi ?
Il se sent trop.
Alors, quelles sont les qualités squalographiques de Great White ? Alors, l'originalité, c'est non acquis, hein, comme je vous ai dit, il y a une demi-douzaine de films qui ont exactement le même scénar. J'ai même réussi à en retrouver d'autres que je ne connaissais pas, comme Frenzy, sorti en 2018, connu aussi sous le nom de Surrendered, et que j'ai rajouté à ma boîte aux requins, et qui raconte à peu près la même histoire. Donc, ces naufragés qui sont entourés par des requins qui viennent les boulotter les uns après les autres, ça commence à devenir franchement pénible. Essayez maintenant de trouver une nouvelle histoire depuis The Shallow et The Reef. L'énorme intérêt de ce genre de script étant généralement quand même d'être relativement économique à tourner. L'histoire est insuffisamment acquise, alors même si on prend un point de départ qu'on a déjà vu ailleurs, on peut le traiter différemment. Et là, bah, à part peut-être le final, il n'y a pas grand chose de neuf. La plupart des péripéties, la plupart des relations entre les différents personnages, c'est cousu de fil blanc, ça a déjà été vu ailleurs, et souvent en mieux. Les personnages, au passage, allez, en cours d'acquisition, ça joue pas très très bien, mais ça fait le job, notamment Katrina Bowden, qui avait été élue l'une des plus belles filles du monde par le magazine Esquire, au début des années 2010. Bon, sans que les comédiens aient été recrutés sur leur physique, et que toutes les différentes péripéties entre eux, les tensions qu'ils essaient de mener, bah c'est surtout du remplissage. Le résultat, c'est que l'ambiance, elle est insuffisamment acquise, on s'ennuie. On commence par une première attaque de requins, histoire d'accrocher un peu le chaland, et puis après, bah, ça traîne. Et les requins, bah, comme ils interviennent relativement ponctuellement, mais qu'on les voit pas trop, bon bah... On se contente souvent de regarder les jolis plans de paysages. Ça, les paysages, ils sont bien filmés, donc la réalisation, elle est en cours d'acquisition, on va dire, c'est propre. Il y a une direction photo compétente, quelques scènes d'action qui marchent à peu près, donc voilà, c'est pas extraordinaire, c'est du travail de publicitaire, du travail de clipper, et dans ce cas, sans être déshonorant, c'est pas non plus une qualité extraordinaire. Les requins, enfin, bah, je dirais qu'ils sont insuffisamment acquis. Les images de synthèse sont pas terribles pour une production de ce calibre. Les requins, bah on les voit un peu succinctement. Il y a quelques attaques un peu rigolotes, mais bon, on essaie de nous faire croire que les requins sont particulièrement affamés à cause du réchauffement climatique. Ça mange pas de pain, ça donne l'impression qu'on a un message dans le film. Et puis les requins eux-mêmes, bah c'est du squale en images de synthèse assez lambda, qui crie. Alors ça m'énerve toujours, c'est ce qui fait tomber d'ailleurs dans le cours d'acquisition à infiniment acquis. Hein, là, voilà, ça vous coûte un point les gars de faire crier des requins, parce que là, ça commence à m'énerver particulièrement. Le résultat est un ensemble qui vaut 7. Allez, je rajouterai un demi-point pour la scène finale. Vraiment la plus réussie, hein, si je peux vraiment vous conseiller, bah... Vous tapez pas l'intégralité du film, contentez-vous simplement de la dernière scène. Et puis, ça nous donne un total de 7,5 sur 1, c'est nul. On frôle toutefois le routinier, et c'est pas si étonnant que ça, parce que Voilà, si on devait faire un bilan, on a des requins en CGI flou qui crient, qui traquent des naufragés stéréotypés. En gros, c'est un film qui a 10 ans de retard et qui promène son ennui et le nôtre dans une compile de scènes qu'on a vues en mieux ailleurs. La filière australienne de films de bébêtes, hein, que ce soit des crocodiles ou des requins, elle est en train de ronronner salement en ce moment. Et les gars, vous avez des compétences techniques, il serait temps de les mettre au service d'un scénar un petit peu plus neuf, qui nous apporte quand même quelques surprises. Bien alors, il est temps de regarder ce que la boîte à requins nous réserve pour la prochaine émission. Alors, je farfouille. Alors, Mégalodon, j'ai pas déjà traité celui-là. Ah non, c'est la version de 2004 de Pat Corbett. Oh, je me souviens, il y a une plateforme pétrolière dans l'Arctique et un requin en image de synthèse du début des années 2000 particulièrement moche. Aïe, aïe, aïe. Mais bon. Et ensuite... Oh, je sens que je vais regretter Mégalodon. Sharkula de Marc Polonia de 2022 avec son requin vampire. De toute façon, les Marc Polonia, j'en ai encore 3-4 à traiter. Que voulez-vous, c'est comme le dépistage du cancer de la prostate. C'est désagréable, on n'aime pas ça, mais faut y passer. Une petite recommandation vite fait sur un sujet qui n'a rien à voir avec les requins, mais parmi mes nombreuses passions un peu inavouables, il en est une dont j'ai très peu parlé jusqu'à présent, c'est la série Chapeau Moulant et Bottes de Cuir, qui est une de mes séries préférées et dont j'aime bien me refaire des épisodes régulièrement. Et j'ai découvert une excellente chaîne YouTube à ce sujet dernièrement, Chapeau Moulant, The Avengers, The French Channel, dont je vous mettrai les références en lien de ce podcast, et qui publie d'excellentes vidéos qui analysent des épisodes en profondeur, en s'attardant notamment sur la mise en scène qui est particulièrement soignée dans les épisodes. Vraiment une chaîne d'exégète. En parlant d'exégète, j'ai aussi découvert les vidéos de Pacom Thielman sur Blast, que ce soit Infernet sur les dérives d'Internet, ou que ce soit la fin du film où il fait des analyses extrêmement pointues de chefs-d'œuvre du cinéma, en y mêlant des considérations à la fois philosophiques, politiques, esthétiques, avec une érudition qui n'empêche pas une véritable clarté de ton et une pertinence du propos excellente. Il vient de sortir une vidéo sur Vertigo et Lost Highway croisés avec le mythe d'Orphée, et c'est toujours véritablement passionnant. Alors, où peut-on se retrouver? Eh bien, sur Twitter, @TheUltimateRico, même si, par manque de temps et aussi par un petit peu de désintérêt devant ce que devient la plateforme, je suis peut-être un petit peu moins présent, je vais essayer quand même de revenir, et sinon, bah, j'ai un compte Sens Critique, Professeur Rico, sur lequel je mets les chroniques de films, de séries. Pour l'instant, je n'ai pas encore attaqué la musique ou les livres, que je peux voir régulièrement. Je vous renvoie aussi aux listes de Quentin sur Sens Critique, hein, la liste Shark Parade, ou de Fabien sur Letterboxd XD, pour retrouver les 110 films que nous avons jusqu'à présent traités. Voilà, on se retrouve dans un mois pour traiter de nouveaux films de requins. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner.